L'envoi du grand prophète de l'islam est le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, a souligné le leader de la révolution islamique lors d'une audience accordée à un groupe de responsables gouvernementaux, de représentants, d'ambassadeurs de pays islamiques et de participants à la compétition internationale du Saint-Coran. Les groupes terroristes Takfiri ont été créés par les États-Unis et leurs alliés, dont le régime sioniste, a souligné le leader du mouvement de la résistance yéménite Ansar Allah, et l'exercice naval conjoint entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine a débuté vendredi pour 10 jours dans l'océan Indien au large des côtes sud-africaines. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un groupe de responsables gouvernementaux, de représentants, d'ambassadeurs de pays islamiques et de participants à la compétition internationale du Saint-Coran ont été reçus en audience par le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei. À l'occasion de la grande fête de Mabas, commencement de la mission du prophète de l'islam, un groupe de responsables du pays, de représentants et d'ambassadeurs de pays islamiques en poste à Téhéran et des gens de différentes couches de la société, ainsi que des invités participant à la compétition internationale du Saint-Coran, ont été reçus en audience par le leader de la révolution islamique, ce samedi 18 février. Je tiens à féliciter tous les chercheurs de vérité et tous les musulmans du monde à l'occasion de la fête de Mabas, car si l'appel du Bissat, mission prophétique, atteint le cœur des chercheurs de vérité du monde, ils seront certainement attirés par cet appel, a souligné le leader de la révolution islamique. L'envoi du grand prophète de l'islam est le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité. La raison en est que sa mission, Bissat, porte des trésors inépuisables pour l'humanité, lesquels peuvent assurer le bonheur de l'homme dans la vie du monde d'ici-bas jusqu'à l'au-delà, a-t-il renchéri. Plus loin dans son discours, l'ayatollah Khamenei a évoqué la cause de la Palestine. Si les gouvernements islamiques étaient restés fermes sur la question de la Palestine dès le premier jour, et s'ils avaient résisté, la situation dans la région de l'Asie de l'Ouest aurait certainement été différente et l'Oumma islamique aurait été plus forte et plus unie aujourd'hui. L'ayatollah Khamenei a réitéré les positions claires et fermes de la République islamique en faveur des Palestiniens opprimés, affirmant que l'Iran n'a aucune réserve à soutenir et à défendre ouvertement la nation palestinienne. L'État islamique continuera d'aider les Palestiniens de toutes les manières possibles, a dit le leader, décrivant la question de la Palestine comme l'une des principales faiblesses et blessures de l'Oumma islamique. Une nation et un pays sont soumis à une oppression sans fin et quotidienne sous les yeux attentifs du monde musulman et par un régime barbare et pervers. Des pays islamiques, avec toute leur richesse et leur capacité, ne font que regarder et même certains d'entre eux, surtout récemment, accompagnent ce régime sanguinaire, a dénoncé le leader de la révolution islamique. Le résultat final, a souligné l'ayatollah Khamenei, est l'affaiblissement des pays qui gardent le silence face aux crimes de ce régime et coopèrent avec les sionistes. La situation a atteint un point où l'Amérique, la France et plusieurs autres pays, prétendant résoudre les problèmes des musulmans, se sont donné le droit d'intervenir dans le monde musulman, alors qu'ils sont impuissants et incapables de résoudre leurs problèmes et de gérer leur pays, a-t-il encore fait noter. Le leader de la révolution islamique a également exprimé sa tristesse face aux récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie qui ont fait de nombreuses victimes, affirmant que tous les musulmans devraient partager leur douleur et leur souffrance. L'ambassadeur de Chine à Téhéran a salué la récente visite officielle du président iranien Ebrahim Raisi à Pékin, la considérant comme un facteur qui propulsera la coopération stratégique entre les deux États à un niveau supérieur. L'ambassadeur Chang Hua a fait cette remarque dans une lettre spéciale envoyée à l'IRNA jeudi 16 février. Je suis sûr que cette visite portera efficacement le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Iran à un niveau supérieur et ouvrira un nouveau chapitre dans nos relations bilatérales. à la tête d'une délégation politico-économique de Oran. Le président iranien Ebrahim Raisi a effectué une visite officielle en Chine du 14 au 16 février. Il a eu une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, en plus d'assister à plusieurs autres réunions visant à renforcer les relations bilatérales. Les liens stratégiques étroits expliquent le choix historique de l'Iran et de la Chine en tant que deux anciennes civilisations de l'Asie de l'Est et de l'Ouest, a déclaré le diplomate chinois. En tant que deux pays indépendants, l'Iran et la Chine développent leurs relations sur la base d'un esprit de respect mutuel. Les deux nations sont considérées comme des partenaires stratégiques honnêtes qui méritent une confiance mutuelle, selon Zhang. Indépendamment des changements dans la situation internationale et régionale, Pékin restera déterminé à développer une coopération amicale avec Téhéran pour porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un niveau supérieur au milieu de changements profonds sans précédent dans la situation mondiale, a-t-il précisé. Au cours de la visite à Pékin, qui était la première du président Raisi en Chine depuis son entrée en fonction, les deux parties ont signé 20 documents de coopération conjointe. S'adressant aux journalistes jeudi matin après son arrivée à Téhéran, le président iranien a déclaré que ce voyage avait été fructueux et que les deux parties avaient suivi de bonnes discussions dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et du commerce, des routes et du développement urbain. Le leader du mouvement de la résistance yéménite, Ansarallah, a réitéré que les groupes terroristes Takfiri ont été créés par les États-Unis et leurs alliés. Les groupes terroristes ont été créés par les Occidentaux, dont les États-Unis et leur allié le plus proche, le régime sioniste. C'est ce qu'a réaffirmé le leader d'Ansarallah, Abdul Malik Aloussi, lors d'un discours prononcé vendredi 17 février. Les ennemis essaient d'induire en erreur les nations et de les éloigner de la voie du progrès en déclenchant des crises politiques, a-t-il dénoncé. Abdelmalik Aloussi estime que les États-Unis utilisent la guerre et la sédition dans d'autres pays pour faire monter le chiffre d'affaires des fabricants d'armes américains. À titre d'exemple, il a souligné la vente du phosphore blanc et des bombes à fragmentation à leurs mandataires dans la région, à savoir le régime sioniste et l'Arabie saoudite, qui commettent des génocides en Palestine et au Yémen. Le leader d'Ansarallah a conseillé aux pays de la région d'éviter de tomber dans le piège des ennemis et de ne pas leur permettre de profiter des différends internes. 80% des complots des ennemis qui s'entourdissent contre nous sont produits par l'exploitation des différends internes, a-t-il déploré, tout en avertissant que les Américains imposent leurs mercenaires à d'autres nations comme moyen de leur porter des coups durs. Les ennemis cherchent à mener des opérations de sabotage parmi les nations en infiltrant leurs mercenaires dans divers postes des institutions en charge de la gestion des affaires économiques des pays, a précisé le leader d'Ansarallah. Le plus grand problème dont souffrent nos nations, ce sont les personnes qui sont soumises aux États-Unis, a-t-il regretté. Moscou appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'ouverture d'une enquête indépendante sur les attaques septembre dernier contre les gazoducs Nord Stream reliant la Russie et l'Allemagne en mer Baltique. Dmitri Polianski, le représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès de l'ONU, a déclaré que Moscou avait remis vendredi 17 février un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies appelant au lancement d'une enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. La chambre basse du Parlement russe, la Douma d'État, a adopté jeudi 16 février un projet de loi appelant les Nations Unies à ouvrir une enquête sur les explosions des gazoducs Nord Stream. Un vote sur le projet de résolution de la Russie pour enquêter sur les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2 pourrait avoir lieu le 22 février au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un exercice naval conjoint entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, nommé Monsi 2, a débuté vendredi 17 février pour 10 jours dans l'océan Indien au large des côtes sud-africaines. L'exercice tripartite entre l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie se tient dans le cadre de la coordination des systèmes d'opération navale et du renforcement du commandement et du contrôle conjoint, a déclaré le ministre sud-africain de la Défense et des anciens combattants Tandi Modise, soulignant qu'il s'agit d'un exercice militaire conjoint conforme, selon les organisateurs, à leurs intérêts nationaux respectifs. Le ministère de la Défense a également souligné que l'exercice MOSI 2 est une plateforme permettant aux trois pays d'échanger des connaissances, des compétences et une expérience opérationnelle militaire. La Russie est représentée aux exercices par la frégate Admiral Gorshkov et le pétrolier Kama. La Chine participe avec un destroyer, une frégate ainsi qu'un navire de soutien. Une frégate et deux navires de soutien sud-africains font également partie de cet exercice naval conjoint. Une source d'information proche du complexe militaro-industriel de la Russie a déclaré à l'agence de presse russe TASS que lors de l'exercice naval conjoint du février 2023 entre les marines chinoises, russes et sud-africaines, le missile hypersonique Zircon sera tiré depuis la frégate russe Admiral Gorshkov dans le cadre d'une opération d'entraînement simulant les conditions d'attaque véritables. Ce missile supersonique est censé viser une cible de surface à une distance de plus de 500 km. Il est à noter que les exercices se dérouleront au large de la province sud-africaine du KwaZulu-Natal, dans la zone située entre la ville portuaire de Durban, le plus grand port d'Afrique australe, et Richards Bay, à quelques 180 km plus au nord. Ils prendront fin le 27 février. C'est la deuxième édition des entraînements tripartites, les premiers s'étant tenus en novembre 2019 près du Cap, situé sur la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le commentaire politique vous sera présenté. Visite d'une délégation militaire marocaine à Tel Aviv. Une délégation militaire marocaine dirigée par le commandant de l'artillerie de l'armée royale, le général-major Mohamed Benouali, s'est rendue à Tel Aviv et a inspecté les bases militaires de l'armée israélienne, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Avichai Adraï. Selon ce responsable de l'armée du régime sioniste, la visite de Benouali s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et des relations entre les forces d'artillerie israéliennes et marocaines. Le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en 2020, alors que les Marocains sont nombreux à s'y opposer. Ils ont manifesté en mars, le samedi 24 décembre 2022, dans 36 villes à travers le pays contre l'accord de normalisation signé entre Rabat et Tel Aviv le 22 décembre 2020 et en solidarité avec le peuple palestinien. Les manifestations ont été organisées par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, qui comprend 15 organisations politiques, syndicales et de défense des droits de l'homme. Dans le cadre de la 8e journée nationale de solidarité avec le peuple palestinien, avec le slogan de « Tous pour la Palestine et pour protéger notre pays de la normalisation avec l'entité sioniste ». Les manifestants marocains ont appelé à abandonner ce qu'ils ont décrit comme le sinistre accord de normalisation. Les villes de Rabat, Dar al-Baïda, Jadida, Agadir et Meknès figuraient parmi celles où la population a organisé des rassemblements de protestation contre la normalisation des relations entre le gouvernement du roi du Maroc, Mohamed VI, et le régime sioniste. Dans ce contexte, le coordinateur du Front marocain de soutien à la cause palestinienne et contre la normalisation, Jamal al-Asri, a affirmé que cette instance avait mené des activités à travers le Maroc pour exprimer son opposition à la normalisation des relations et au sinistre accord entre le Maroc et le régime sioniste. Nos activités au sein du Front ont deux objectifs principaux. Le premier est de soutenir la Palestine et de fournir toutes les formes de soutien à la cause palestinienne que nous considérons comme une cause nationale. Le deuxième objectif est d'abandonner le traité de normalisation, a-t-il réaffirmé. Et lui de poursuivre. Nous avons développé au sein du Front un programme qui comprend la tenue de rassemblements, de conférences et de la publication de communiqués de protestation. Et ces actions sont menées dans tout le Maroc avec le mot d'ordre « la normalisation » est une trahison.